tour de critique par le père Philippe à Saint-Joseph le 7 janvier 1987.
Descendre le fleuve, c'est facile. Alors vous voyez, ces deux ordres. C'est important de bien comprendre cela, qu'il y a toujours ces deux aspects. L'attitude, ça c'est respecter les deux. L'attitude réflexive, c'est d'essayer de ramener à un seul ordre. Je crois que si vous êtes dans une attitude non réflexive, d'invention, vous acceptez qu'il y a toujours deux ordres, l'ordre inductif, l'ordre de la découverte, et l'ordre de celui qui exploite la découverte et on exploite l'acquis, le parfait vers l'imparfait, et on saisit tout, toutes les conclusions. Tandis que cette philosophie de la libération chez Descartes consiste à vouloir trouver en nous, dans une attitude réflexive, de retrouver quel est le point central, le noyau sur lequel je puis m'appuyer, le roc. Puisqu'il s'agit de certitude, ne pas dévier. Trouver ça, ce n'est plus la question de la vérité, c'est la certitude. C'est très curieux, vous voyez que tout de suite, dès que vous êtes dans une attitude réflexive, ce n'est plus la vérité, c'est la certitude. Certitude, harmonie. Vous êtes en face du système, un système harmonique, un système logique. Et dans cette attitude réflexive, vous essayez de découvrir donc le point central sur lequel vous pouvez vous appuyer. L'acquis absolument certain. Et vous avez à ce moment-là, j'allais presque dire, le primat de la méthode. C'est vrai qu'avec Descartes, le primat de la méthode commence dans une attitude réflexive. On comprend très bien pourquoi. Parce que vous n'êtes plus dans une attitude de dialogue. Vous êtes dans une attitude de monologue. Puisqu'il n'y a plus ce lien avec le réel dans l'expérience. L'expérience me met tout de suite en face de l'autre. Tandis que là, je suis en face de moi-même et j'essaie de découvrir le noyau fondamental sur lequel tout repose. Vous voyez, c'est la nostalgie de l'infaillibilité. Là où il n'y aura pas d'erreur, c'est la perte du risque. On veut être certain, absolument certain. C'est très très curieux comme attitude. C'est très important de regarder le point de départ parce que de fait, chez Descartes, c'est cette attitude réflexive. Prima de la méthode, cherchez la certitude. Alors à ce moment-là, vous n'avez plus ces deux axes, l'axe génétique et l'axe de perfection. Vous n'avez plus qu'une attitude réflexive. Dans cette attitude réflexive, vous avez deux aspects. Vous avez l'aspect de la logique. Et va naître la critique. Cette attitude réflexive implique l'attitude logique. La logique est une attitude réflexive. J'étudie ma manière particulière de connaître. J'essaie de comprendre comment, du fait même que je connais quelque chose, je suis en présence de l'universel. C'est la logique. Mais l'être de raison ne nourrit pas son homme. Faut pas l'oublier. La logique, c'est d'une certaine manière infinie. Parce que il n'y a plus d'une réalité que j'atteins, sur laquelle je peux m'appuyer. L'universel, c'est le lien entre l'un et le multiple. C'est le primat de l'un dans le multiple universel. C'est ça l'universel. C'est très curieux, je suis dans l'ordre de l'un et du multiple. Et d'une certaine manière, c'est infini. La logique n'a pas de limite. Et la logique, dans l'ordre de l'attitude réflexive, implique quelque chose de premier. Quand je dis premier, c'est-à-dire dans l'ordre de la cause exemplaire. On est dans l'ordre de la cause exemplaire. Là. C'est ce qui mesure. La cause exemplaire qui mesure. Et de la logique, à l'intérieur de la logique, il va y avoir une autre attitude, l'attitude critique, l'attitude réflexive est née de la critique et elle va aboutir à la logique. Elle naît de la critique. Le souci premier de Descartes, ce n'est pas la logique. Le souci premier de Descartes, c'est l'attitude critique, de voir où gît l'erreur. De façon absolue, de façon infaillible. Et il fera tout le grand système pour atteindre ces deux aspects où il y a erreur. Alors, j'ai peur de l'erreur, je vais l'écarter. Et c'est en sens simple que Descartes met tout de suite loin la connaissance sensible, parce qu'elle est source d'erreur. Et va s'enfermer dans le point de vue des idées qui vont être le point de certitude. Et à partir de Descartes, on peut dire que cette attitude réflexive est première dans tous les modernes. Vous retrouvez cette attitude réflexive. Dans la phénoménologie, c'est l'attitude réflexive. Ça, c'est important de comprendre ce tournant de la philosophie. Qui n'est plus l'attitude d'une confiance absolue ou innée, absolue, une confiance dans l'intelligence, dans ce que représente l'expérience, mais au contraire, une suspicion, une mise entre parenthèses pour chercher où est le roc. Alors, le roc pour Descartes, c'est ceci. Le roc pour Kant, c'est cela. Pour chacun, le roc, c'est différent. Mais c'est toujours ça qu'on cherche. On cherche la mesure. Ce sur quoi je peux m'appuyer. Et ce qui est très, très intéressant à voir, c'est que cette attitude critique, réflexive, va aboutir à un primat de la logique. Ça, je crois qu'on peut dire que c'est ce qui caractérise notre philosophie moderne. Alors, on peut chercher pourquoi ce primat de l'attitude réflexive. Comment se fait-il ? On peut dire la crainte, un motif psychologique, la peur de l'erreur. La peur de rester dans quelque chose qui n'est qu'une opinion, on veut quelque chose de certain. On peut dire avoir un raisonnement tellement certain qu'on n'a plus besoin de la foi. La foi me donne des certitudes. Et je veux trouver des mêmes certitudes aussi grandes dans la raison. Tout ça, ça peut se commander. Mais comment peut se faire ce primat de l'attitude réflexive ? Je crois personnellement ce que je l'ai jamais vu affirmer. Je crois que ce primat de l'attitude réflexive implique un primat de la négation. Et c'est là où il y a tout un petit problème critique très intéressant à voir. Comment ce primat de l'attitude réflexive que nous constatons, c'est un fait, ça. Alors on peut simplement le constater. Mais on peut essayer de chercher la raison de ce primat. Je peux donner des motifs historiques. Je peux donner des motifs psychologiques. C'est très vrai. Descartes a peur de se tromper. Dans un sens qu'on a dit que Descartes est un petit bourgeois. Il a peur. Descartes en a assez des théologiens, ses professeurs. Il en a assez par-dessus la tête de ses professeurs de théologie qui donnent toujours le primat de la foi en disant que la foi est plus certaine que tout le reste. Eh bien non, la foi n'est pas plus certaine, c'est la raison qui nous donne la certitude dernière. Nous ramènera tout à la raison comme certitude dernière. Oui, on voit très bien cette peur de se tromper et chercher une certitude. Et là, on voit très bien à ce moment-là la séduction mathématique. Parce que quand vous cherchez la certitude, les mathématiques apparaissent comme salvatrices. Les mathématiques, c'est le domaine merveilleux de la certitude. Le vieil Aristote disait déjà, qu'est-ce qui est premier dans les mathématiques, c'est la certitude. Si vous voulez la certitude, faites des mathématiques. Si vous avez un tempérament un peu scrupuleux, si vous avez un tempérament un peu timoré, si vous avez très peur de l'autonomie de la raison, de l'intelligence, faites des mathématiques, ça vous donnera de la sécurité. Ah, une sécurité très particulière, une prison dorée, mathématiques, n'en sortez jamais. C'est vrai que dans l'ordre de la certitude, les mathématiques apparaissent tout de suite premières. Comme c'est curieux. Vous voyez, si je cherche la certitude, il y aura deux choses qui vont apparaître, les mathématiques et la logique. Et quand vous allez lier la logique mathématique, alors vous aurez une nec plus ultra. Parce que vous aurez une logique va reposer sur une pensée certaine et donc vous aurez quelque chose d'absolument sûr. C'est très intéressant de voir cela, comment la certitude commande de sortir de la crainte de l'erreur et comment cette certitude conduit à cette attitude réflexive. Bon, il y a ça au point de vue psychologique. Mais pour mettre un primat de la réflexion, de l'attitude réflexive, pour mettre un primat de la méthode, je crois que ça implique toujours un primat de la négation. Nous y reviendrons. Alors, face à ce monde philosophique, l'attitude réflexive, nous devons, au plan philosophique, voir ce qu'il y a de vrai. L'intelligence humaine est une intelligence complexe. Les sources de la connaissance ne sont pas uniques, elles sont multiples. Et tous les jours naît une nouvelle science pour bien nous montrer que, de fait, les sources de la connaissance sont multiples, sont complexes. Parce que notre intelligence implique cette complexité. Et quelle est cependant intelligence ? L'intelligence a la capacité de réfléchir sur elle-même. Elle a cette auto-lucidité. Ceci, c'est vieux. Ça a été dit par Platon, ça a été dit par Aristote, ça a été dit par tous les philosophes. Et c'était dit par saint Thomas, le propre du sage, c'est d'être capable de se critiquer. Le propre du sage, c'est d'être lucide. C'est de pouvoir à chaque instant faire le point. l'intelligence a cette capacité d'auto-lucidité. C'est-à-dire qu'elle peut se critiquer elle-même. L'intelligence a donc une capacité de réflexion. Il faut le reconnaître. Tout n'est pas faux dans cette attitude réflexive. Tout n'est pas faux. Mais cette réflexion n'est pas première. Elle présuppose toujours une méthode d'invention. Elle présuppose toujours un certain ordre dans ma recherche intellectuelle. Elle présuppose une philosophie. Donc, j'accepte la méthode réflexive comme une méthode seconde et non pas première. Et ceci va me permettre de saisir ce qu'il y a de juste dans une méthode réflexive. Autrement dit, dans notre monde d'aujourd'hui, il est nécessaire de faire une critique. Dans notre monde d'aujourd'hui, il est nécessaire de faire de la logique. Les deux grands aspects de la méthode réflexive, à l'intérieur d'une recherche et à l'intérieur d'un jugement de sagesse. Le jugement de sagesse, dernier, il est ici. Du parfait vers l'imparfait. Et le point de vue génétique est tout le temps. Je dois, si j'essaie de comprendre, je dois essayer de saisir qu'au niveau de la recherche, je n'ai jamais terminé. Mon intelligence est une intelligence qui ne cesse de rechercher. Mon intelligence est une intelligence qui ne cesse d'essayer d'avoir une lumière ultime dans un jugement de sagesse. Mais mon intelligence est aussi capable de se critiquer. Et elle en a besoin. Elle a besoin de se défendre par elle-même contre toutes les séductions. Elle a besoin donc de réfléchir sur son propre cheminement. Elle a besoin de justifier cet aspect génétique constant, ce renouveau génétique constant. Elle a besoin de justifier sa capacité de jugement de sagesse. Donc il faut cette méthode réflexive. Par cette méthode réflexive, je comprendrai ce qu'il y a d'intéressant dans Descartes, dans Kant et dans la phénoménologie, et même chez Foucault. Je comprendrai ce qu'il y a de positif, la petite lumière que ces philosophes peuvent me donner. Mais j'essaierai de dépasser cette méthode réflexive en comprenant que cette méthode réflexive, si elle est première, aboutit à l'asphyxie. Une méthode réflexive, quand elle est première, aboutit à l'asphyxie de philosophe. Il n'a plus d'air. Alors il se réfugie dans la logique. Quand il n'y a plus d'oxygène, on se réfugie dans la logique. L'être de raison. L'être de raison a l'immense avantage de ne pas être corruptible. Il n'y a plus d'oxygène. C'est un non-vivant. Mais c'est propre. C'est une objectivité parfaite. On aime mieux mourir qu'être objectif. C'est ça le primat de la logique. C'est très très important de comprendre ça. À Fribourg, il y avait le bon père Borensky qui plaidait le primat à absolue de la logique mathématique. Ça m'a beaucoup intéressé. C'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui est convaincu. Quand il avait écrit il y a 20 ans l'histoire de la philosophie occidentale, il avait dit dans un certain nombre d'années, et pour lui c'était 15 ans, il n'y aura plus que deux espèces de philosophes, les intuitifs, poètes, et la logique mathématique. C'est la division qu'il faisait. Mais pour lui, la seule philosophie, c'est la logique mathématique. Parce qu'elle est la seule objective. Alors, le grand drame, pour lui, c'était l'ordinateur. Est-ce que l'ordinateur ne va pas supprimer le philosophe? Parce que l'ordinateur, dans le point de vue de la logique mathématique, bat le philosophe en rapidité. Le philosophe est battu dans la rapidité. Alors, il sera toujours la tortue qui ira beaucoup moins vite. C'était le drame. Je me souviens très bien. Un jour, il m'a posé la question comme ça. Alors, j'ai un peu ri au nez. Alors, ça dépend quel genre de philosophie vous avez. Si vous avez une philosophie des possibles, je comprends. L'ordinateur, c'est de l'ordre du possible. Et c'est toutes les combinaisons possibles du possible. Donc c'est le possible au carré. Mais si votre philosophie regarde l'homme, l'ordinateur est le fruit de l'homme. Et donc il y aura toujours la source avant. Et il y aura l'intelligence humaine à chercher. Et c'est très intéressant de voir ça. Parce que c'est intéressant de voir comment la logique mathématique, dans une attitude de philosophie réflexive, devient primordiale, la mesure de tout. Mais déjà, je crois que quand on fait un peu de critique, il faut comprendre que la critique est nécessaire aujourd'hui pour comprendre ce qu'il y a de juste, d'intéressant dans toutes ces méthodes réflexives. Descartes, Kant, la phénoménologie. Il y a un lien entre ces trois. Et c'est la méthode réflexive première. Pour nous, la méthode réflexive est seconde. Mais dans la méthode réflexive, on va voir ce qu'il y a d'intéressant dans Descartes, ce qu'il y a d'intéressant dans Kant, ce qu'il y a d'intéressant dans la phénoménologie. Et dans Foucault. Le dernier venu. Dans une perspective donc réaliste, qui respecte le dialogue de l'intelligence et de la réalité, qui respecte le primat de la réalité par rapport à la connaissance humaine, la méthode réflexive est seconde. Autrement dit, ma critique aura de valeur en fonction de ma philosophie. Et non pas ma philosophie aura de valeur en fonction de ma critique. Le sabbat est-il pour l'homme ou l'homme est-il pour le sabbat? Ma critique est-elle pour ma philosophie ou ma philosophie est-elle pour ma critique? Je reconnais les deux ordres. Je reconnais que les deux sont indispensables. Mais il y a un primat de la philosophie par rapport à la critique. Pourquoi? Parce que la matière que je critique, c'est ma connaissance. Et donc, plus ma connaissance est profonde, parfaite, plus ma critique sera intéressante. Si j'ai une connaissance tout à fait descriptive, si j'ai une connaissance dans tout à fait pratique, la critique aura très peu de choses à dire. Si j'ai une connaissance approfondie, une connaissance qui va très loin, la critique aura beaucoup de choses à dire. Donc la profondeur de la critique dépend de la profondeur de ma connaissance, puisque je critique ma propre connaissance. Je cherche pas à critiquer le Mont Blanc. Évidemment, le Mont Blanc pourrait être un peu plus haut. Il serait d'autant plus blanc. Je ne vais pas critiquer l'océan et les profondeurs de l'océan. Je les constate. On ne critique pas la réalité. Mais c'est intéressant. Vous critiquez votre ami lorsque vous ne le considérez pas comme une réalité antérieure à vous. Et lorsque vous regardez votre ami uniquement en tant que vous vivez de lui, alors vous critiquez votre connaissance affective que vous avez de votre ami. Et vous critiquez que votre ami n'est pas suffisamment source d'amour pour vous. On ne critique pas le réel. On le constate, on essaie de le comprendre. On ne critique pas le bien, la réalité bonne. On critique la connaissance que nous avons du réel. On critique l'amour que nous avons du bien. Donc la critique présuppose toujours une première activité de connaissance ou d'amour. Ceci me semble élémentaire et donc capital. Et si là il y a des difficultés, il faut les noter et essayer de les exprimer. Parce que ça, il faut que ce soit d'une évidence absolue. Autrement, un jour ou l'autre, vous vous laisserez séduire par la phénoménologie. Vous vous laisserez séduire par Kant. Vous vous laisserez séduire par Descartes. Vous laisserez séduire par Foucault. C'est très très important de comprendre ça. Et là, il y a un vaccin qui est absolument nécessaire. Il faut qu'on en ait l'évidence. C'est élémentaire. Vous n'avez qu'à réfléchir, hein, parce que vous avez une très grande expérience de la critique. Au niveau moral, au niveau pratique, une très grande expérience. Première chose qu'on fait quand on arrive dans un immeuble, n'importe lequel, c'est de le critiquer. Aujourd'hui. Quand vous critiquez quelque chose, réfléchissez. Qu'est-ce que vous critiquez? Qu'est-ce que vous critiquez? Vous critiquez l'impression que vous avez à l'égard de cet immeuble, à l'égard de cette communauté. Première personne que j'ai vue, un abruti. Donc tous doivent être comme ça. Universalise la connaissance. C'est très curieux. Mais c'est comme ça qu'on ait un tout petit peu de lucidité dans nos critiques. C'est peut-être la meilleure manière de relativiser la critique. Alors, au point de vue de l'intelligence, c'est comme ça qu'on fait. On critique nos connaissances. Et c'est vrai, on a à critiquer notre philosophie. Notre philosophie réaliste demande d'être critiquée pour être approfondie. Pour aller jusqu'au bout. Et de cette manière-là, je comprendrai mieux pourquoi Descartes, pourquoi un Kant, pourquoi la phénoménologie, pourquoi Foucault. Descartes, c'est en face d'un primat abusif de la foi, d'un certain fidéisme. Kant, c'est en face d'une philosophie naïve de l'ontologisme à la Wolf. Pourquoi la phénoménologie? C'est en face d'un primat de la logique. On comprend très bien ces choses-là. Et il faut les saisir. Foucault. Plus délicat là. Pourquoi Foucault? Pourquoi cette méthode archéologique? Pourquoi ce désir de rechercher quelque chose de fondamental? C'est sans doute parce que ce qui apparaît immédiatement est quelque chose. chose de trop superficiel. Mais c'est peut-être la fatigue d'une civilisation très efféminée. Alors on veut chercher le fondement. On veut chercher quelque chose qui tient la route. C'est toujours intéressant de chercher le primat de la critique. Et pourquoi le primat de la critique ? C'est qu'au fond, de fait, on est en face de choses qui ne tiennent pas. Et alors on veut trouver quelque chose qui tient. Le rock. La critique, pour nous, est seconde. Elle se fait à partir de notre philosophie. Et je dis bien, notre critique ne pourra être profonde qu'à partir d'une métaphysique qui s'achève dans une sagesse. C'est le privilège de la sagesse de pouvoir se critiquer et d'aller jusqu'au bout de la critique. Et la sagesse, justement, c'est celle, c'est la connaissance qui découvre l'existence de l'être suprême, du Créateur. C'est très curieux de voir qu'au fond, on ne peut critiquer que dans la mesure où on a découvert l'existence de Dieu. Tant qu'on n'a pas découvert l'existence de Dieu, notre critique reste un peu une critique sauvage. Et non pas une critique qui pourra aller jusqu'au bout. C'est pour ça que la critique arrive en dernier lieu, au service d'une connaissance sapientiale, au service d'un jugement de sagesse. Et on comprend pourquoi, puisque je ne peux critiquer que dans la mesure où je connais, tant que je n'ai pas essayé d'aller jusqu'au bout de ma connaissance. Ma critique sera toujours un peu à côté. Alors vous allez me dire, ben, je ne peux pas faire la critique alors, oui. Cependant, on peut toujours critiquer dès qu'on est entré un tout petit peu en philosophie. Puisque dès qu'on est entré en philosophie, l'aspect de la philosophie première, de la métaphysique et de la sagesse est présent. Donc on peut critiquer très vite. Mais la critique ne sera parfaite qu'au point de vue ultime. Si j'essaie de comprendre cette méthode critique, je vois, c'est d'essayer de chercher ce qui, dans ma connaissance philosophique, est le roc. Là, je suis d'accord. Ce qui est fondamental dans mes connaissances philosophiques. Et je peux dire tout de suite que le roc de ma connaissance philosophique, ce sera mon concept d'être. Mais comprenons bien, le concept d'être sera le roc de ma connaissance. C'est-à-dire que toute ma connaissance philosophique présuppose le concept d'être. Mais mon concept d'être n'est pas premier au plan philosophique. C'est ça qui est intéressant à voir. Il est premier dans l'ordre de la critique, de la réflexion critique. Il est premier dans l'ordre de ma connaissance philosophique. Mais il n'est pas premier dans l'ordre de la réalité. Et donc, je ne peux pas commencer une métaphysique par le concept d'être. Mais je peux comprendre que ma critique va découvrir de la manière la plus radicale et la plus fondamentale, c'est le concept d'être. Je vous le dis tout de suite. Évidemment, c'est un a priori que je dis là. C'est pas un a priori pour moi. Ça peut être un a priori pour vous. Nous aboutirons à cela. Alors je le dis tout de suite pour que vous compreniez mieux. Et par le fait même, toute diversité dans le concept d'être va apporter Certains diront que le concept d'être est inné. Le dernier qui a dit ça, c'est Rosmini. Rosmini, qui est un métaphysicien, un philosophe italien, qui a joué un rôle important en Italie, qui est un chrétien, une philosophie chrétienne. Et qui dit que le concept d'être est un concept inné. Donc le petit gosse, dans son berceau, a le concept d'être. Et les premiers gémissements de l'enfant sont les gémissements du concept d'être. C'est très curieux. Pour nous, nous essaierons de comprendre que le concept d'être est un concept et que c'est le concept fondamental, premier, primo, concepit in intellectu, catit in intellectu, concepit in intellectu, ens. La première chose que l'intelligence conçoit, c'est ce qui est, c'est l'être. La première chose que l'intelligence conçoit, et elle conçoit sous l'aspect de l'être. Et c'est un concept acquis. Et un concept qui, j'allais dire, devient de plus en plus précis, mais qu'il ne l'est jamais totalement. C'est un concept analogique. Un concept acquis et analogique. Et fondamental. Et ce concept d'être a une richesse extraordinaire. Qu'il implique les cinq transcendantaux. Voilà ce que je découvre comme le fondement de toute ma vie intellectuelle et philosophique. Le puits, Jacob, ce puits est profond, le concept d'être. Alors, évidemment, en disant ça, vous voyez, je me mets en dehors de Heidegger. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis en face de deux attitudes contradictoires. Rosmini, Heidegger. Rosmini, le concept d'être est inné. Heidegger, pas de concept d'être. L'être est pré-conceptuel, pas de concept d'être. Et Heidegger dit ça pour lutter contre la fémologie, le primat de l'intentionnalité. Et Heidegger veut briser ce primat de l'intentionnalité en disant que l'être, c'est ce que je peux saisir par intuition. Mais l'être n'est pas premièrement dans l'intelligence. Alors, il y a quelque chose de vrai dans Rosmini, quelque chose de vrai dans Heidegger. Et il faudra découvrir progressivement comment ce concept d'être est premier fondamentalement. Pas premier génétiquement, pas premier dans l'ordre métaphysique, mais premier dans l'ordre critique.
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.